Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Aujourd'hui est la sortie d'un épisode un peu particulier. En effet, après avoir passé les 6 dernières années à sillonner la Champagne pour aller à la rencontre de mes invités, c'est le cœur rempli d'émotions que je vous accueille pour le 100e épisode de Wine Challenge. Je profite donc de l'instant pour remercier chaque vigneronne et chaque vigneron qui a partagé ici avec nous son parcours et sa passion avec beaucoup de sincérité. Tout comme je vous remercie vous, chers auditeurs et chères auditrices, pour vos écoutes toujours plus nombreuses. Votre fidélité et votre enthousiasme me motivent à aller encore plus loin et à vous offrir le meilleur podcast possible. Enfin, je ne saurais également oublier de remercier mes proches pour leur soutien indéfectible depuis le début de cette belle aventure. Alors je lève mon verre à toutes ces rencontres et à chacun de vous qui écoutez Wine Challenge et soutenez ce projet. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que ce 100e épisode soit le prélude à de nombreux autres moments de partage. Alors sans plus tarder, je vous laisse me suivre au domaine de Bicherie, dans la Côte des Bars, pour y retrouver Anna et Raphaël Piconnet. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Anna, bonjour Raphaël.
Bonjour, bonjour Alexandra.
Merci beaucoup de m'accueillir au domaine aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de parler un peu plus du côté humain des choses ici, vous le savez. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le souhaitez l'un et l'autre.
Écoute, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille chez nous. On est drôlement content que tu viennes nous voir. Moi, ça a toujours été assez clair pour moi que je voulais revenir ici. Là, on habite dans la maison de mes grands-parents, qui est juste à côté. C'était pour moi un rêve depuis le début. Je rêvais de revenir habiter à Neuville, de revenir travailler ici. C'était vraiment un rêve. Et en 2014, on est revenu habiter ici. Ça a toujours été assez clair. Et c'est là où ça a été un peu plus compliqué pour Anna, qui a toujours été habituée à la ville. Moi, la plus grande ville où j'ai habité, c'est Bordeaux, qui n'est pas vraiment une grande ville, en fait. J'adore habiter à Neuville, être ici. Il y a 400 habitants, on se connaît tous. On s'apprécie plus ou moins, ça, c'est pas la question, mais on se connaît tous et c'est toujours sympa de discuter de tout, de rien dans la rue. Et aussi, forcément, il y a l'histoire familiale, les grands-parents, toute la famille. On a toujours été ici et le lien fort avec les vignes qui sont ici. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de question, il fallait revenir ici.
Je n'ai pas une formation viticole dans la vinification, exactement. J'ai une grande passion depuis toujours et puis aussi de par ma famille, en fait, qui était toujours très francophile. On venait souvent en France. Mais à part ça, je crois que dans les premières années quand même du domaine et du travail dans les vignes, j'ai plutôt été un soutien de l'extérieur parce que j'avais un autre travail à 80 km d'ici jusqu'à 2018. En revanche, le domaine de bicherie, ça a toujours été quelque chose dont on a déjà parlé à Bordeaux en écrivant un peu du brainstorming sur une feuille. C'était un projet dans la tête de Raphaël qui était très très clair et qui donnait vraiment très très envie. Et arriver ici, c'est sûr que ça semblait un peu énorme. Et voilà, moi, là où on est aujourd'hui, j'ai beaucoup appris grâce à Raphaël et en travaillant avec lui depuis 2018. Et là, du coup, dans la vigne, dans la cuverie et beaucoup aussi dans la construction du domaine. Quand on est arrivé, il y avait donc le domaine et la vigne et le vin qu'on a produit en 2015 a été commercialisé seulement en 2018. Donc on a commencé à zéro en ce qui concerne la commercialisation. Et là, c'est beaucoup de travail ensemble, je dirais, sur l'étiquette, le démarchage, où est-ce qu'on veut se positionner. Et voilà, ça c'est seulement depuis 2018 en fait.
Quel a été votre parcours de formation initiale? Vers quoi est-ce que vous étiez orienté jeune, adolescent?
Moi, tout petit, je voulais être tracteur. Ensuite, j'ai vu que c'était pas possible. J'ai deux frères et deux sœurs. Et l'après-midi, on allait aux vignes avec papa et on jouait en haut des vignes. Papa, il faisait du raisin. Avec mon grand-père, c'est quelque chose qu'ils nous ont transmis, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire aux vignes, il y a toujours du travail, c'est toujours super agréable d'y être. Je suis pas du tout objectif, mais on a la chance ici de travailler dans un cadre magnifique. On est au milieu de la nature, il n'y a pas de pollution sonore, il n'y a pas de pollution visuelle. On n'a pas de route ou de... Alors, c'est aussi un problème, hein. Il n'y a pas de grande voie de communication. Il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'avion, on est dans les vignes, on voit de la forêt, des champs, des vignes, et c'est tout. Ça, c'est super agréable, donc il y a toujours eu cette passion d'être aux vignes. Et donc du coup, le parcours, il va en Bourgogne, parce que nous, ici, donc, on est à 1h30 de Beaune, on a de nombreux copains en Bourgogne, on a toujours été assez proches d'eux. Donc 2 ans de BTS, qui se transforme finalement en 3 ans. Et là, il y a vraiment la passion du vin, où nous, du coup, papa étant adhérent à la coopérative et même membre... président de la coopérative, très très impliqué dans la coopération. On suivait un peu le vin, mais d'assez loin. On était dans les vignes. Et là, en Bourgogne, il y a cette découverte du vin où, chez les copains, on descendait faire des dégustations sur fût. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible de ne pas faire de vin. Le jour où je rentrerai à Neuville, c'est pas possible de pas faire de vin. Tout comme ça a toujours été une évidence de travailler dans les vignes, Après Beaune, c'était une évidence qu'il fallait faire du vin. Papa nous a jamais vraiment mis la pression pour revenir sur le domaine. Vraiment, c'était prenez le temps de faire des études, vous avez le temps de rentrer, vous avez le temps de rentrer. J'ai adoré parce que la Bourgogne, c'était aussi la liberté. Avant ça, nous, le lycée, c'était l'internat, c'était assez cadré. Beaune, c'était aussi un peu la fête, un peu tout ça, et c'était super dans la formation. Il y a vraiment cette découverte du vin. Et après, je suis parti en Suisse faire 3 ans d'école d'ingénieur en viticulture et œnologie. Et en fait, on a quasiment fait la même chose qu'en Bourgogne, mais avec 3 ans de maturité en plus, où c'était aussi la fête, il n'y avait pas de question. Mais on était quand même un peu moins bêtes. On abordait les choses autrement aussi, et ça, c'était vraiment super, où on a quand même énormément appris. Puis la Suisse, c'est quand même un pays formidable, où en 3 heures de voiture, tu passes de l'allemand au français à l'italien. Et du coup, moi, j'ai fait des vinifications dans les 3 Suisses, allemande, française et italienne. Et ça, c'était aussi, c'était vraiment génial, hein, d'avoir ces influences culturelles dans un si petit pays. Ouais. C'était vraiment chouette. Et en 2012, c'était prévu, je rentrais à Neuville, et pendant l'été, il y a ce maître de chai de Pape Clément à Bordeaux qui m'appelle, qui était un copain d'un maître de stage que j'avais eu en Suisse, et qui me dit « Est-ce que ça te dirait de faire les vendanges chez nous ?» Et j'en discute vite avec papa, maman, je dis « Bah tiens, moi c'est une opportunité qui m'intéresse, je connaissais pas du tout Bordeaux, qui est quand même quelque chose dans le monde du vin. » Ça me posait question. Et donc on en discute vite fait, je dis « Bon bah ok, c'est parti, on va à Bordeaux. » Et du coup, j'ai découvert Bordeaux pendant les vendanges 2012. On a aussi passé beaucoup de temps là-bas avec Anna. C'était nos débuts, c'était vraiment une super expérience.
Et pour toi, Anna, si on remonte un peu le fil de ta vie, comment tu en es arrivée à être ici, aux côtés de Raphaël ?
Toutes mes études, je les ai faites en Allemagne. J'ai commencé avec quelque chose qui est un peu comme une alternance. Ça s'appelle un apprentissage. Donc après mon bac, mon abitur, j'ai fait ça à Munich pendant 2 ans et demi dans l'hôtellerie de luxe. Avec l'objectif de rester, de travailler, de faire aussi mes études dans le tourisme international. J'ai toujours adoré voyager. Et je voulais en faire un peu mon métier, ça me disait bien. Donc c'est là aussi quand même, dans l'hôtellerie de ce niveau, un peu les premiers contacts d'études avec le vin. Et ensuite, j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait des études, donc un bachelor et un master en psychologie. Donc ça s'appelle business psychology, donc dans la psychologie du travail. Aussi un peu dans le marketing. Quels sont les facteurs motivants pour les gens. Donc ça reste toujours un sujet qui me passionne. Et même si je l'exerce peut-être pas comme beaucoup de mes collègues de ces études, je pense que ça m'a quand même énormément apporté. Après mon master, j'ai une bucket list. C'est un peu grâce à mon père qui a fait des vendanges quand il était jeune. Il m'a toujours parlé de ça. Il les a fait en Bourgogne. Je voulais absolument aller en France. Et j'ai fait les vendanges ici à Neuville. C'est là où j'ai rencontré, où on s'est croisés en fait seulement avec Raphaël. Et on est resté en contact et voilà. Et ensuite, j'ai trouvé donc un travail dans la chambre de commerce, dans le réseau international des grands vignobles. Et moi, j'aurais pu rester à Bordeaux. j'ai adoré, j'aime beaucoup, beaucoup cette ville. Mais il a toujours été très clair pour Raphaël de rentrer, comme il a déjà dit. Bah, du coup, on l'a tenté, quoi. Et finalement, je suis toujours là.
Sans regret ?
Ah non, absolument pas. Et c'est vrai qu'il y a tous les facteurs qui sont peut-être au début un peu durs ou un peu perturbants quand on a beaucoup vécu en ville. Et on arrive dans la campagne où tout le monde se connaît, où tout le monde connaissait surtout Raphaël. Et du coup, tout de suite, il y a cette impression que tu arrives en tant qu'étrangère dans un village comme ça et tout le monde te connaît alors que toi, tu connais personne.
Et comment tu as trouvé ta place ?
Je crois qu'il est très important d'avoir mon propre truc dans les premières années à l'arrivée. Et j'avais un très bon travail que j'adorais, qui m'a encore vraiment beaucoup formée, mais qui n'a rien à voir avec le vin non plus. Et ensuite, quand même, la création du domaine et de la marque Domaine Bichérie, qu'on a eu cette chance de la commencer à zéro. Au début, ça nous faisait peur. On savait qu'en 2015, on a produit 5000 bouteilles. Pour nous, c'était énorme. On ne savait pas comment on va les vendre, à qui on va les vendre. Et aujourd'hui, notre vie est enrichie par ça. On peut parler dans une semaine 3 langues différentes et qu'on a des contacts partout un peu dans le monde. Et je pense qu'on n'aurait pas ça, j'aurais beaucoup plus de mal encore aujourd'hui à être ici. Pour nous, c'est la polyvalence aussi de ce travail parce qu'on n'est pas très nombreux sur le domaine et du coup, ça nous permet de toucher un peu à tout. Donc ça, c'est des facteurs qui, pour moi, sont nécessaires pour notre vie ici aujourd'hui. C'est une chance, ouais.
Toi, Raphaël, comment t'as appréhendé tout ça et comment t'as trouvé aussi ta place dans ce métier de vigneron ?
Il y avait vraiment cette envie de faire du vin. On aurait à choisir, très égoïstement, moi je préférais arrêter de vendre du vin et travailler aux vignes que d'arrêter de travailler aux vignes pour vendre du vin. Il n'y a aucune question. Et là vraiment, on est en train d'essayer de vraiment organiser notre travail pour, alors c'est un petit peu aussi égoïste, hein, mais pour bouger le moins possible finalement. On fait au maximum pour recevoir les gens chez nous, mais on essaye aussi de bouger au minimum. Et ça, c'est du coup, c'est quelque chose qui me faisait peur au début, les gens qui allaient venir. Et là finalement, j'adore ça. parce que justement, cette ouverture sur le monde que ça nous donne, qui est juste géniale, cette idée de parler trois ou quatre langues dans la même semaine. Même là, avec maintenant les enfants qui sont aussi plus grands, qui voient ça, ils viennent regarder, dès qu'ils peuvent, à chaque fois qu'il y a du monde, ils viennent regarder. Et alors là, c'était des Anglais, ils venaient d'où et parce que les Américains, ils parlent comment? Ils parlent anglais parce que, et ça, c'est génial. Et je me dis, ils voient ça, ils doivent se dire pourquoi tous ces gens-là, ils viennent. Enfin, on en parle et tout, mais c'est une ouverture sur le monde qui est vraiment géniale et qui est assez plaisante, tout en restant à Neuville, tout en restant chez nous avec les enfants qui reviennent manger le midi. Mêler tout ça ensemble, c'est vraiment super. C'est des fois largement impactant sur la vie de famille, ça c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours de se ménager des temps entre nous. Ça c'est facile à dire, mais on essaye de faire au mieux et on apprend aussi un peu. Mais non, c'est chouette.
Et qu'est-ce qui est le plus important à avoir quand on se lance dans un projet entrepreneurial comme ça, quand on crée un domaine? Qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui ont le même projet que vous aujourd'hui?
D'avoir une femme comme Anna. Non, mais plus globalement, l'entourage, c'est clair. Nous, enfin, on en a parlé depuis le début, et même aussi, forcément, on a des copains ici qui venaient, eux, d'une famille qui faisait déjà du champagne et qui n'arrêtaient pas de nous dire « Vous vous rendez pas compte la chance que vous avez de commencer de zéro ?» Et là, mais non, mais vous vous rendez pas compte la chance que vous avez de commencer avec des bouteilles, du stock, des fichiers clients, des machins. Et en fait, non, on a de la chance de commencer de zéro, il n'y a pas de question. Hein, ouais. Mais parce qu'on a été aussi toujours, ouais, je pense, très entouré et par énormément de monde, d'horizons totalement différents. Nos parents respectifs, parce que même tes parents, à un moment, ils viennent voir et ils sont complètement extérieurs à ça, et ils posent du coup des questions qu'on se serait jamais posées. Mais pourquoi vous fonctionnez comme ça? Parce qu'ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Même avec papa, même avec maman, même avec mes frères et sœurs, tes frères et sœurs. Et là, on a fait avec la famille, et après, on fait les copains. Et là, des copains du milieu, des copains pas du milieu, des copains d'ici, des copains de loin. C'est génial, ouais. On est très entourés, et ça, c'est super.
Je crois qu'il est très important de rester soi-même, de rester authentique, parce que tu te dis toujours oh « oui, on va essayer de vendre nos bouteilles, de vendre notre marque, etc. » Mais je crois que le plus sincère et authentique, c'est si tu restes toi-même, en fait, derrière tout ça. Encore une fois, en commençant sans a priori, sans mauvaise expérience, mais sans expérience tout court, tout est enrichissant, tout est voilà, une nouvelle étape. Et donc dans tout ça, de ne pas vouloir s'accrocher à une image X, en commençant par comment tu travailles dans la vigne et quel vin tu aimes, toi. Ne pas perdre ça de vue, je pense.
Et est-ce que vous avez connu des échecs? Et comment vous êtes relevé de ces situations?
C'est 2021. J'avais plus envie d'aller aux vignes. Et ça, ça reste là, quoi. Ouais. Et là, il y a mon papa qui a commencé avec l'obligation de travailler en bio, parce que les produits chimiques n'existaient pas. Et qui ensuite a connu l'avènement des produits chimiques, avec moins de travail, plus de rendement. Et quand on lui a annoncé qu'on passait en bio, il a dit « pas de problème, allez-y, je vous empêcherai pas, mais vous allez voir ». Il nous laissait faire, on peut que le remercier, mais vraiment, pour lui, c'était vraiment un retour en arrière. Et 21, papa, donc, il suit les vignes comme ça, on se voit tous les jours, hein, presque. Il vient plus travailler avec nous, sauf pour les vendanges, il est encore là. Et donc 2021... On gèle, on perd la moitié, ensuite on repère la moitié avec les maladies. Et donc là, il y a juillet, t'as juste plus envie d'aller aux vignes. Les vendanges, t'as pas envie d'aller les faire, t'as plus envie de rien. Et aux vendanges, papa qui vient, et à un moment, je sais plus où c'est. Et moi, je pleure dans la vigne, parce qu'il y a rien. Et il me dit non, 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 maintenant, t'as fait ce choix-là, ça sert à rien de pleurer, t'assumes. On vendange, on fait au mieux, et on s'en va dans une autre, mais t'assumes, quoi. Et il a raison. Alors sur le coup, c'est... Tu prends un peu, et ça, c'est quand même un échec, c'est sûr. Et après, est-ce qu'on changerait? Non, parce qu'en fait, c'est tout, il faut accepter. Il faut accepter de perdre du raisin, il faut accepter que ça soit dur, mais jamais de la vie, on viendra en arrière sur le bio, pour le coup. Enfin, c'est comme ça qu'on voit les choses, et encore plus maintenant avec les enfants, encore plus avec ce qu'on voit partout, mais voilà, ça, c'est quand même, ouais, c'est l'échec de notre début de carrière. Enfin, pour moi, ça reste un traumatisme conséquent. Et aussi sur l'impact que ça a eu sur la vie de famille. Avec les enfants qui arrêtaient pas de regarder, ils allaient à la fenêtre, il va pleuvoir, papa, il va pleuvoir, parce que vraiment, ouais, tout tournait autour de ça, il n'y avait plus rien, on était dans un truc costaud. Et finalement, maintenant, tiens, on a commencé à goûter dès 2021, et c'est bon. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bon. Alors on dit, voilà, c'est un échec, mais finalement, à quel point c'est un échec? Et puis on continue, chaque année est différente, donc on y retourne. Et puis 2022, ça s'est super bien passé, il n'y a pas de raison que 2024, ça ne se passe pas super bien, et voilà.
Et quel regard, toi, tu portais, Anna, sur la champagne, quand tu connaissais pas du tout ce milieu?
Encore une fois, à l'hôtellerie de luxe, pour des grands événements, c'était du Dom Pérignon. Et je ne voyais pas, en fait, des vignerons derrière, à vrai dire. Et ça, c'est aussi super chouette aujourd'hui de voir toutes les possibilités dans le Champagne. Et je crois que les grands groupes et le prestige, l'image qu'a la Champagne, c'est porté par ces maisons-là. Mais en vrai, quand on a l'occasion et la chance de pouvoir voir au-delà de ça, bah, c'est que des vignerons, c'est que du travail. C'est... Voilà, mais ça, moi, de l'extérieur, j'avais pas une image très paysan derrière le Champagne du tout. Et pour le coup, c'est tout à fait notre vie d'aujourd'hui, oui.
Et est-ce que quand vous avez créé ce projet, quel projet d'une vie, vous aviez déjà imaginé la suite, c'est-à-dire imaginé aussi pouvoir transmettre quelque chose? Est-ce que ça fait partie de l'équation ou est-ce que vous vous êtes dit, ben non, c'est notre projet à nous, et puis si un jour ça intéresse les enfants, ça viendra, mais on va le faire pour nous d'abord?
Moi, je pense que la réponse viendra plus claire de ta part, parce que je pense que de famille à famille et de génération à génération, quand on est propriétaire de la terre, c'est quelque chose de très profond. Que j'arrive peut-être maintenant à comprendre, mais je ne sais pas si je le ressens de la même façon que la famille de Raphaël et que Raphaël ressent. Moi, je souhaite à nos enfants qu'ils puissent faire des voyages, qu'ils puissent voir beaucoup, beaucoup autre chose, qu'ils soient ouverts par rapport à ça. Mais voilà, surtout qu'ils trouvent leur envie. Mais je crois aussi que de la façon dont on travaille et dont on vit avec eux, ils voient aussi une grande partie de plaisir qu'on prend dans ce travail. Et ça, c'est la meilleure façon, je crois, de transmettre et de donner envie.
Moi, j'adorerais, enfin, il n'y a pas de question, hein. Ça n'a jamais été l'objectif de notre vie. On l'a fait avant tout pour nous. Parce qu'on a commencé, il n'y avait pas d'enfants. Maintenant, il y a des enfants. Je serais le plus heureux des hommes qui fassent ce qu'ils ont envie de faire. Et je serais encore plus heureux s'ils faisaient la vigne, c'est clair. Et après, j'y réfléchis par contre. Ce qui me rendrait encore plus heureux, c'est qu'ils fassent leur truc. Domaine de bicherie, c'est nous. Faites votre truc, nous on a eu la chance de partir de zéro. Laissez Domaine de Bicherie mourir, c'est pas grave. C'était nous, faites votre truc. Ouais. Ouais. Et prenez le temps d'aller voir, restez pas enfermés ici. Bougez, faites ce que vous voulez, revenez quand vous en avez envie. Il n'y a pas d'urgence.
Et aujourd'hui, vous faites partie d'un collectif, donc des Pieds des Vins. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien dans votre vie de vigneronne, de vigneron, mais aussi votre vie personnelle?
Avant le professionnel, c'est vraiment au niveau personnel où c'est super de passer du temps ensemble. Et ensuite... Au niveau professionnel, il y a plusieurs parties. Les échanges au niveau travail dans les vignes, travail en cave, ça c'est toujours génial. Et là, on essaye vraiment de prendre le temps à chaque fois qu'on se voit. On tourne chez tous les membres du groupe et on prend le temps de visiter les vignes, la cave, les vins, prendre le temps de goûter, de comprendre comment chacun fonctionne. Parce que c'est cool d'aller vraiment chez les gens et de voir comment c'est. C'est facile partout, c'est facile nulle part. Je veux dire, on a tous nos problèmes, on a tous nos trucs à gérer. Et d'en parler et de voir que... Bah tiens, lui, il a ça comme problème, nous, on ne l'a pas encore eu, ça va peut-être venir, et comment on va faire? Ou alors, tiens, lui, il fait ça, ça marche bien. Nous, la même chose, ça ne marche pas, pourquoi? Enfin, ça, c'est vraiment génial, ouais. Vraiment, c'est un très grand plaisir de se retrouver à chaque fois, ouais.
C'est un groupe très inspirant, et en même temps, pour moi, c'est quelque chose d'important, je pense, parce que je me sens quand même toujours comme quelqu'un qui vient un peu d'extérieur, mais... Dans ce groupe-là, je me sens à l'aise. Et vraiment, parler avec tout le monde et de juste sentir une grande passion que tout le monde a en commun et une grande humanité. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup de chance. Et chaque réunion, chaque retrouvaille, c'est un très grand moment.
Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite à tous les deux?
On essaye de garder cette rapidité de décision. Moi, je pense qu'on a tous énormément d'opportunités, qu'il faut être juste le plus à l'aise au moment où elles se présentent pour la saisir. Et c'est vraiment ça ce qu'on essaye de faire. Moi, c'est vraiment l'idée, c'est d'être suffisamment à l'aise pour saisir l'opportunité qui va se présenter à nous.
Et bien, je vous souhaite pleine réussite dans votre projet et puis voilà, de faire de belles expérimentations, de belles découvertes.
Merci beaucoup,
Alexandre. À bientôt, merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast @winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite.